Radio Campus Lille, 19h.
L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle contre le logiciel privateur. L'écho des gnous.
Bonsoir et bienvenue dans le 264e numéro de l'Économie, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Ce soir, je suis un peu tout seul. Alexandre m'a pas encore remis son mot d'excuse officiel, mais je suis en vacances ou au travail loin, je sais plus lequel des deux. Il suffira la prochaine fois qu'on se voit tous ensemble. Donc aujourd'hui, on va se faire, comme d'habitude, pour la dernière de l'année. Dans deux semaines, on sera le 31. Non, on ne sera pas disponible. Mais donc, pour la dernière de l'année, on va faire les actualités des deux semaines écoulées et la routine avec un petit peu de musique libre. Alors, étant donné que c'est Alexandre qui fait les choix de musique, avec moi, ce sera juste un extrait, des morceaux de musique qui est déjà passé dans une vieille émission. Donc, on va commencer un petit peu avec des nouvelles autour d'Internet et de la vie privée. Alors, il y a un sujet dont on parle, j'ai l'impression qu'on en parle plus aux États-Unis qu'en Europe de ce problème-là. Ça doit être lié aux parts de marché. Aux États-Unis, les iPhones sont beaucoup plus présents qu'en Europe, en tout cas de ce que j'en vois. Et donc, aux États-Unis, il y a une certaine importance à avoir la bulle de la bonne couleur dans la messagerie e-message d'Apple. C'est, e-message pratique une certaine forme de mise en avant des copains. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui vous parle sur des discussions entre gens qui sont sur iPhone, entre gens sérieux, les bulles seront de mémoire bleue, alors que si c'est quelqu'un qui est sur Android qui parle à quelqu'un qui est sur iPhone, la bulle est de couleur verte. Parce qu'en fait, e-message, c'est pas juste des SMS, c'est aussi un protocole propriétaire d'Apple qui permet de passer outre de nombreuses limitations du protocole SMS. On en a déjà parlé aussi, Apple, au moins pour l'Europe, va intégrer dans l'iPhone le protocole RCS, qui est un successeur du SMS, pour justement essayer de montrer que non, on n'a pas de position dominante. Pour l'instant, ce support de RCS n'est toujours pas présent, et aux États-Unis, en tout cas, on n'en a pas parlé du tout. Alors, j'espère qu'ils le sortiront aux États-Unis, parce que sinon, ça serait vraiment dégueulasse. En tout cas, ça montrera l'importance des manœuvres anti-monopolistiques en Europe, en tout cas, pour faire bouger les GAFAM. Il paraît qu'ils résistent à tout et que les États peuvent pas les faire bouger. Apparemment, si. C'est toujours ça de prix. Et donc, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est qu'il y a une petite entreprise qui a développé. Alors, c'est un logiciel propriétaire qui a été développé, mais c'est donc l'entreprise qui a sorti le logiciel Beeper pour Android, qui permet de communiquer avec les gens sur e-message comme si on avait un appareil sur e-message. Et donc, leur application est sortie et ils ont lancé donc le jeu du chat et de la souris avec Apple. Donc leur application a fonctionné quelques jours, elle a été bloquée par Apple qui a fait des changements sur ses serveurs. Là, l'application, aux dernières nouvelles, donc de début de cette semaine, elle remarchait. J'ai pas regardé si ça avait à nouveau cassé, parce que honnêtement, n'ayant ni Android ni iPhone, je suis pas concerné. Mais je trouve que ça montre quand même à quel point le système de fermeture, ça peut être efficace. Ça crée, c'est pourquoi avoir besoin de développer une application pour ça. C'est parce qu'il y a une vraie demande. Il y a vraiment cette forme de discrimination, j'ai envie de dire, même si c'est assez idiot. Mais fonctionnellement, il y a des fonctionnalités qui ne sont pas présentes. Parce que vous êtes sur Android, nous Apple, non, on va pas communiquer avec vous, on va pas chiffrer, on va pas vous fournir un protocole qui est bien plus intéressant que le simple SMS. Donc à suivre, évidemment, ça va être intéressant. Mais les problématiques d'interopérabilité, on en parlait déjà. Mes premières fois où on parlait d'interopérabilité dans les messageries, c'était il y a plus de 20 ans, avec les problématiques autour, notamment à l'époque de MSN, AIM, ICQ et autres, qui étaient tous incompatibles. Au final, ça n'a pas changé. C'est juste que maintenant, c'est iPhone, c'est e-message ou c'est Facebook Messenger ou autre. Donc, celle-là est une affaire à suivre. Alors, autre affaire. C'est un petit peu plus rigolo à évoquer celle-là. Alors, on a parlé sur cette antenne, je crois que c'était l'année dernière, on a parlé du cas de Epic, donc une entreprise d'édition de jeux vidéo, un des gros éditeurs de jeux vidéo, et puis qui a attaqué à l'époque Apple et Google, donc dans deux procès séparés, pour s'opposer au monopole qui est mis en place avec les App Store. Parce que les magasins d'applications sur téléphone empêchent l'installation d'applications sans passer par ce biais. Et du coup, bah, si vous ne pouvez pas passer par là, vous êtes obligé de payer la taxe Apple ou la taxe Google. Et c'est un abus de position dominante. En tout cas, c'est le point de vue qui est défendu par l'entreprise Epic. Il y a quelques mois, face à Apple, ils ont perdu. On leur a dit non, non. Il n'y a pas d'abus de position dominante, etc. Moi, j'ai souvenir que je m'en étais quelque peu offensé sur cette antenne. Et là, donc, cette semaine, un jury a décrété que, oui, il y a bien un monopole de Google sur la distribution des applications Android et sur les services de paiement intégrés aux applications. Et Google a eu des pratiques anticoncurrentielles et l'entreprise Epic a subi des dommages de ce fait. Donc, deux salles, deux ambiances. Puisque, donc, face à Apple, mais là, attention, face à Apple, c'était un juge. Face à Apple, Epic avait perdu. Face à Google, avec un jury, Epic a gagné. Donc il y aura un appel, forcément, et l'appel, ce sera devant un juge, donc on verra la suite. Mais voilà, c'est un petit peu cocasse. Donc évidemment, ça change. Nous, Européens, ça ne changera pas grand-chose pour nous, en tout cas plus grand-chose pour nous maintenant, puisque à partir de l'année prochaine, à un moment, il va y avoir des évolutions, parce que Apple et Google vont être obligés d'autoriser l'installation d'applications tierces sans aucune barrière. Donc ça va faire des changements un peu plus rigolos. On continue dans la section Internet et vie privée. On parlait de messagerie juste avant, j'ai dû la faire dans cet ordre-là. Meta, l'entreprise derrière Facebook, Instagram, WhatsApp, mais tous les autres, tout le reste du barda, Meta avait annoncé en 2019 que, grande nouvelle, Instagram, Messenger, WhatsApp, ils vont tous communiquer entre eux. Et comme ça, vous allez pouvoir communiquer. Si vous avez un compte sur Instagram, vous avez la messagerie instantanée qui fonctionne avec quelqu'un qui est sur WhatsApp ou quelqu'un qui est sur Messenger. C'était une révolution. Alors, de souvenir aussi, on s'en était quelque peu moqué sur cette antenne. Et bien là, il y a eu une annonce. Ils ont dit, on coupe les discussions entre Instagram et Messenger. Les conversations en cours vont rester visibles, mais en lecture seule, et c'est tout. On n'a pas d'explication sur pourquoi quoi qu'est-ce. On ne sait pas pourquoi ils se sont dit « tiens, on va couper ». Alors, une supposition, c'est à cause des nouvelles réglementations européennes. Plutôt que de dire « on a un gros réseau de communication, donc il faut qu'ils soient interopérables », ils préfèrent dire « c'est plusieurs entités séparées, et du coup, elles sont en dessous des seuils du nombre d'utilisateurs, et pouf !» Il n'y a pas besoin de réglementation, il n'y a pas appliqué les règles du DMA pour nous. Alors, c'est une manœuvre un petit peu malhonnête. On verra si ça passe devant les différentes autorités compétentes. Mais c'est une façon de faire que cocasse, on va dire. On continue encore, donc en toujours autour de Meta. Celle-là, elle est un petit peu marrante, celle-là. Tout n'est pas à vendre, on n'a pas dit à quel prix. Et donc, il y a une petite blague du côté de Harvard, donc grande université américaine. Il y a un petit souci, c'est qu'il y a un universitaire qui explique que... il a été évincé de sa chaire, a priori. Je suis désolé, la traduction sur ces termes-là, je ne l'ai pas forcément. Mais il a été évincé de son poste. Il travaillait sur les problématiques de désinformation. Et il se trouve qu'il a été évincé de son poste après l'université d'Harvard ait reçu un don de 500 millions de dollars d'une fondation de Mark Zuckerberg. Voilà. Les gens ne sont pas à vendre, on n'a pas dit à quel prix. Illustration. Donc, pour 500 millions de dollars, on peut faire taire des chercheurs sur les problématiques de désinformation. C'est pas si cher, finalement. Puis surtout, les 500 millions de dollars, il ne faut pas oublier que derrière, il y a une partie qui va servir à être défiscalisée, ce genre de choses. Hein. Attention, la philanthropie des milliardaires, c'est une bonne blague, mais malheureusement, ce n'est pas le sujet de cette émission. Donc, voilà. On n'a pas le droit de dire que c'est de la corruption, mais quand même, je trouve ça assez cocasse. En tout cas, si les faits étaient avérés, parce que là, l'universitaire l'affirme, c'est effectivement, le calendrier correspond. On n'a pas de, il n'y a pas de preuves, malheureusement. Ça serait peut-être un petit peu trop facile. À propos de désinformation, on va parler un petit peu de YouTube. YouTube, il y a eu une étude scientifique qui a été menée, qui conclut sur... en fait, on en a déjà parlé à plusieurs reprises dans cette émission, on en parle même un petit peu plus ouvertement maintenant dans les médias grand public. Il y a un problème de biais des algorithmes. C'est-à-dire que si vous avez tendance à consulter du contenu typé... écologique, extrême gauche, extrême droite, et ceci, cela, la plateforme va avoir tendance à vous associer à ça et vous proposer du contenu qui va renforcer. Parce que c'est, forcément, si c'est du contenu que vous êtes d'accord avec, eh ben, ça va créer des choses positives pour vous, ça va continuer à vous impliquer dans la plateforme. Et donc, alors les vidéos ne sont pas classées par YouTube en droite ou gauche, mais y a les algorithmes font que... ben, on va vous montrer plus facilement du contenu qui va être conforme à vos couleurs politiques et vous allez être enfermé dans un biais comme ça. Mais il y a quand même un biais de l'algorithme plus globalement dans telle ou telle direction en fonction de la popularité des vidéos. Et il se trouve que la haine est porteuse. Alors soit parce que les gens sont réellement intéressés par ça, soit parce que c'est une forme de curiosité malsaine, les gens regardent et du coup... parce que les gens regardent, ça monte le poids de la vidéo dans les algorithmes, et donc la vidéo est mise en avant, et donc les gens regardent. Petit cercle vicieux, démonstration. Et donc, l'étude scientifique indique qu'il y a un biais à droite dans l'algorithme de YouTube, mais en revanche, il n'y a pas d'exposition marquée au contenu extrémiste, sauf chez les personnes déjà plus marquées à l'extrême, en particulier à l'extrême droite. Donc, c'est une nouvelle étude des universités américaines. Et c'était suite notamment à une plainte. Alors, c'est suite à une tuerie en été 2022. Il y avait une tuerie à Buffalo. Donc, des survivants avaient porté plainte contre YouTube et Reddit parce qu'ils estimaient que ces plateformes avaient participé à la radicalisation de l'assassin. Mais donc là, maintenant, cette étude, donc, qui a été faite avec vraiment une quantité importante de données, etc., pour essayer vraiment de bien démontrer la chose, indique qu'a priori, les vidéos sont... enfin, il n'y a pas de sur... enfin, c'est pas la plateforme qui va exposer. Il faut avoir déjà cherché ce type de contenu pour que le contenu vous soit apparent. Après, il y a tout de même encore un problème, c'est que des vidéos, des chaînes catégorisées comme problématiques peuvent encore sortir dans les recherches. Moi, ce qui m'amuse aussi là-dedans, c'est de me dire que c'est marrant parce que quand il y a quoi que ce soit qui soit accusé de violation de copyright, là, ça disparaît complètement. Par contre, si c'est du contenu haineux ou ça, là, il n'y a pas de problème. Ça peut survivre sur YouTube. C'est étonnant comme choix. Enfin, on se fait une dernière nouvelle à propos de vie privée. Elle m'a fait un petit peu rire, celle-là. Et une entreprise américaine, 23andMe, alors les plus scientifiques ou ceux qui se rappellent leur cours de collège auront peut-être compris tout de suite la référence, 23 comme le nombre de chromosomes. Et donc, 23andMe donc, est une entreprise qui propose de faire des tests ADN. Je rappelle, de mémoire, ça c'est interdit en France, de faire des tests ADN comme ça, on n'a pas le droit normalement. Et donc l'entreprise permet à n'importe qui de recevoir un kit de prélèvement ADN et d'envoyer pour que l'entreprise fasse l'analyse et classe, le but étant de retrouver les liens de parentalité, éventuellement de trouver des maladies ou ce genre de choses. Et donc l'entreprise a annoncé que, il y a eu un piratage en octobre dernier, je crois qu'on en avait parlé, et donc ils ont estimé qu'il y a environ 14 000 comptes dont les données ont été fuitées, mais en fait, l'auteur a eu accès à des fichiers contenant les informations sur les ascendants de ces comptes. Donc du coup, ils savent pas exactement, ils disent il y a un nombre significatif de fichiers, mais ils savent pas. En fait, ils savent pas à quel point ça, il y a eu les informations ont été récupérées. Donc, sachant que les pirates ont divulgué des millions de résultats de tests ADN. Hein. Donc, 14 000 comptes seulement, des millions de tests, c'est un peu étonnant. Donc, c'est tout ce qu'on avait en vie privée sur ces deux dernières semaines. C'était déjà assez rigolo. On en aura sûrement beaucoup plus dans un mois. Et en attendant, on va se faire un premier morceau de musique. On va écouter la mélodie du macaron des humeurs cérales sur Radio Campus 106.6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. On se retrouve dans 3 minutes.
Si j'avais été un macaron, crois-le bien mon amour, je serais bien plus heureux pour un jour, mais un jour c'est mieux, mieux que toutes ces années à passer devant toi, sans oser te parler, sans même que tu me vois. Si j'avais été un macaron, tu m'aurais façonné comme tu voudrais que je sois. J'aurais été parfait, fait du bout de tes doigts. Toi, j'ai encore rêvé que tu me donnerais la vie dans l'arrière-boutique de ta boulangerie. Mais je ne suis pas un macaron, je reviens plus que ça, je reviens plus qu'un jour, je m'en vais de ce pas, conquérir ton amour, quelques fleurs à la main, à la porte d'entrée, je sens l'odeur du pain, je me sens vaciller à la vue de son sourire, quand il te tient la main, tu te mets à rougir, alors c'est pour de bon, je rêverai pour toujours d'être un macaron. Sans
c'était la mélodie du macaron du groupe Les Humeurs Cérébrales, toujours sur Radio Campus 106.6, vous écoutez avec nous. Et c'est la deuxième partie des actualités, on va parler un petit peu de nouvelles logicielles et matériels. Alors, on va commencer par une nouvelle qui a fait quelque peu polémique. Certains l'ont détourné un petit peu de son cadre. Il y a eu une nouvelle, alors on n'en parle pas trop des sorties de ce logiciel-là parce que c'est un logiciel très technique dans le monde de Linux. Il y a eu une nouvelle version qui est sortie de Systemd. Alors Systemd, c'est le composant, c'est un logiciel qui s'est imposé maintenant. Il y a mis quelques années avant de s'imposer, mais qui remplace tout ce qui existait avant pour gérer le démarrage de Linux. Et donc, lorsque vous démarrez votre ordinateur sous Linux, le noyau Linux démarre et tout de suite après, il donne la main à Systemd. Qui gère l'ensemble des services qui composent votre système. Et donc, nouveauté de la version 255 de Systemd. Alors, c'est une nouveauté qui est encore expérimentale, en cours de validation, c'est la première fois qu'elle sort. Ils ont créé un composant qu'ils ont joliment nommé Systemd BSOD. BSOD comme Blue Screen of Death, pour ceux qui se souviennent de ce que c'est. Donc l'écran bleu de Windows. Et donc, ça fait troller en disant « Ouais, voilà, si tu introduis un écran bleu, il n'y a pas besoin, ceci, cela. » Alors, j'ai juste... En fait, moi, je suis assez content qu'il y ait ça, qu'il soit sorti. Et donc, je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi c'est assez intéressant. Parce que sous Windows, avant donc à l'époque des Windows 95, 98, c'est des premiers des Windows NT, des premiers Windows XP, Vista, je sais plus, honnêtement. L'écran bleu était quand même assez intéressant, parce que quand on savait le déchiffrer, on savait à peu près quel élément du système avait planté. On pouvait dire, ah, c'est tel pilote qui a planté, c'est la gestion de l'USB qui a planté, ce genre de choses. C'était relativement pratique. Alors, ça a ses limites, évidemment. Sous Linux, on a la possibilité d'avoir beaucoup plus d'informations en cas de crash. Le système est ouvert, donc le système est par défaut beaucoup plus verbeux déjà pour dire alors ça a planté comme ça et l'enchaînement il s'est produit comme ça et on a toutes les informations tout de suite. Le problème c'est comment accéder et comment afficher ces informations. Et c'est là qu'on tombe sur aujourd'hui un trou. Il y a un souci, c'est que sur votre système Linux, imaginons pour une raison quelconque, vous avez un plantage. On parlera tout à l'heure de raisons de plantage, il y en a des tas finalement vu la complexité des machines de maintenant. Mais donc imaginons vous avez un plantage, un périphérique qui se comporte mal, un pilote qui se comporte mal et le système plante intégralement ou non. Pire, le système plante au démarrage avant d'avoir initialisé la session graphique, ce qui est une possibilité selon le type de défaillance. Eh bien, vous n'avez pas moyen de le savoir. Il faut démarrer le système, alors soit avec un système à côté, soit en mode sans échec, pour aller récupérer les journaux d'informations et pour là seulement espérer avoir les informations du qu'est-ce qui a planté. Ou redémarrer avec d'autres options pour que ça affiche ce qui a planté. Et tout ça, c'est un gros problème, parce que s'il y a un plantage, il faut afficher l'information, il faut dire, ok, il y a un plantage, il y a ça qui vient de mal se passer, ça va pas. Et donc, ce que fait le composant BSOD de SystemD, c'est que oui, ça affiche un message d'alerte en plein écran, ça affiche les messages d'urgence du système pour dire, il y a un plantage, il y a ça qui va pas. Donc, certes, le nom est un joli troll, je trouve, appeler ça SystemD BSOD, parce que Blue Screen of Death, voilà, c'est une référence informatique connue. Mais par contre, moi en tout cas, je trouve que c'est une excellente nouvelle, notamment lorsque quelqu'un appelle avec « Ah bah mon ordinateur il démarre plus, il y a tel truc qui va pas », ça peut aider à tout de suite savoir quel composant est défaillant avant de se déplacer avec des pièces de rechange. Ça peut être très très pratique. Donc voilà, ça a été introduit donc là dans la dernière version de SystemD, donc ça sera sur les distributions qui sortiront à partir du printemps. À propos de distributions qui vont bientôt sortir, il y a un débat du côté d'Ubuntu, de Canonical qui gère la distribution Ubuntu. Il se pourrait, pour l'instant on est encore sur de l'hypothèse, que la prochaine version d'Ubuntu ait un changement assez important en termes de support des processeurs d'ordinateur. Et on tombe là sur un problème assez gênant. Microsoft le rencontre également, même si Microsoft le camoufle plus ou moins habilement. Le problème, c'est que les processeurs de nos ordinateurs ont évolué. Les premiers processeurs de PC, ils datent des années 80. Enfin, voilà, encore. Je simplifie à mort, donc les premiers 80-86, ensuite il y a le 80-186, 286, etc. On est passé de processeurs qui étaient en 16 bits, on est arrivé sur des processeurs 32 bits, donc ça c'est l'époque notamment des 386 qui ont commencé à vraiment gérer le système, à être pleinement utilisé en 32 bits après, avec les améliorations des performances, etc. Puis vint l'AMD et l'Athlon, qui est l'Athlon 64, qui introduit l'AMD 64, aussi appelé x86-64 pour ceux qui aiment les noms plus longs. Ça, c'est le langage de base du processeur. Le problème, c'est qu'au fil du temps, on a introduit des petits ajouts. On a introduit, alors à une époque, moi je me souviens quand j'étais petit, de publicités à la télé qui vantaient le processeur Pentium avec ses instructions MMX. Ça devait parler à personne. Ou les processeurs AMD K6 avec 3D Now, ça ne parlait à personne. Mais qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est des instructions en plus dans le processeur. Et les programmes peuvent les utiliser ou non. Alors en général, soit ils sont optimisés à la main pour dire « Alors, on est vraiment sur une plateforme où c'est disponible, ok, je vais pouvoir les utiliser. » Soit c'est tant pis et l'optimisation n'est disponible que pour ceux qui recompilent les programmes, vraiment qui prennent depuis que source, pour recréer des binaires, pour traduire en langage machine, et qui traduisent de manière spécifiquement adaptée à leur processeur. Mais le truc, c'est que là, donc, dans l'historique que je vous ai fait, l'AMD 64, ça a été introduit en 2003-2004, de mémoire, j'ai pas révisé mes dates. Et depuis, il n'y a pas eu de changement. Donc ça fait 20 ans que les processeurs parlent la même langue. Mais en 20 ans, il y a eu des tas d'évolutions. Il y a des tonnes d'instructions qui étaient introduites. Alors, je ne vais pas vous donner tous les noms barbares que ça porte, mais c'est des instructions qui sont très importantes pour exploiter pleinement la puissance d'un processeur moderne. Et donc, le souci, c'est que quand on dit, ben voilà, ça c'est une version d'Ubuntu, de Debian, de quoi que ce soit, de Windows pour processeur AMD 64, est-ce que ça va parler la langue commune de tous les processeurs de ce type, ou est-ce que ça va parler un sous-ensemble en supposant que le processeur dispose des compétences, dispose des fonctionnalités pour parler les langues plus modernes, les variantes plus modernes de ce jeu d'instructions. Alors, chez Microsoft, ça a été réglé de manière assez sale, on va dire. C'est pas encore très clair, finalement, de la dépendance de Windows à ça. En tout cas, c'est dans les changements de Windows 11. C'est vraiment pas super clair pour savoir à quel point Microsoft a besoin de ça ou non. Dans le cas d'Ubuntu, jusqu'à maintenant, et comme la majorité des distributions Linux, il n'optimise pas les programmes par défaut pour utiliser les derniers jeux d'instructions. Il se limite aux jeux d'instructions de 2004. Et donc là, l'idée, donc ça reste à déterminer, mais pour la prochaine version d'Ubuntu, il pourrait décider de se limiter au matériel qui date de 2015 ou plus récent, donc en demandant des jeux d'instructions spécifiques, alors les AVX, AVX2, BMI, FMA et autres. À se faire, à suivre, mais ça va être assez important à noter, c'est pour ça que j'en parle aussi maintenant. Si vous êtes utilisateur d'Ubuntu sur du vieux matériel, je vous invite à regarder, à essayer de vous renseigner. Alors, on en parlera dans cette émission, mais ça va être un sujet relativement intéressant à suivre. Et il y a un vrai intérêt pour l'utilisateur lambda, c'est que ça va améliorer les performances si vous avez un processeur compatible. Si vous avez un processeur incompatible, vous allez devoir changer de distribution Linux. C'est un problème. Donc, à suivre. Là, c'est en cours de considération. Ils sont en train d'évaluer qui, justement, serait lésé par ce changement. Donc, toujours à propos de matériel et de processeurs, d'ailleurs, on parlait des processeurs PC, de l'évolution, de l'introduction du 64 bits début des années 2000. Eh bien, il se trouve que des distributions Linux, plusieurs distributions Linux en tout cas, continuent d'être compatible avec le 32 bits. Notamment la distribution Linux Debian. Et donc, qui a annoncé que, ça y est, là, ils sont en train d'évaluer est-ce que ça vaut le coup de continuer à fournir une version 386, enfin 32 bits, de la distribution Debian. Alors, ils n'ont pas l'intention de faire un peu de la même façon que Ubuntu, parce que Ubuntu a plus ou moins abandonné aussi. Mais ils ont décidé, voilà, on arrête déjà de faire une version installable et les mainteneurs de paquets pourront décider de continuer à mettre leur paquet en 32 bits ou non. Donc la distribution 32 bits va plus ou moins être abandonnée par Debian. Elle va être gardée uniquement pour les raisons de compatibilité, mais donc ça va être un sous-ensemble. Et toujours à propos de 32 bits, pourquoi qu'on en cause aussi là-dessus, il y a des problèmes assez rigolos. C'est que lorsqu'il y a eu la transition du 32 au 64 bits à l'époque, il y a 20 ans, on n'a pas abandonné tous les logiciels du jour au lendemain. On n'a pas dit non mais tous les logiciels que vous avez, ils vont arrêter de fonctionner. Et donc les processeurs 64 bits sont toujours capables de parler 32 bits, heureusement. Sauf que ça commence à être de plus en plus difficile pour des raisons de sécurité. Il y a de plus en plus de fonctionnalités des processeurs qui, en fait, se comportent pas si bien que ça quand on retombe en 32 bits. Et donc, il commence à y avoir de sérieux débats pour dire, est-ce qu'à un moment, il faudra pas arrêter le support du 32 bits sur les systèmes Linux ? Alors, Microsoft a les mêmes problématiques, grosso modo, mais Microsoft n'a pas le choix que de continuer à rester compatible avec le 32 bits, parce que même encore aujourd'hui, il y a des tas de logiciels Windows qui sortent en 32 bits, alors que sous Linux et dans le monde du logiciel libre, on fait ce qu'on veut. Et la transition a eu lieu il y a très longtemps. Donc là aussi, ça va être tout un ensemble de questions assez rigolotes dans les prochains mois. Donc petite mise en bouche. On continue avec le matériel un petit peu. On a appris, donc au travers d'une modification pour Linux qui était envoyée par AMD, on a appris une des raisons pour lesquelles certains ordinateurs ne sont pas vendus avec un Linux préinstallé, alors que le fabricant peut avoir d'autres ordinateurs dans sa gamme préinstallés avec Linux. Il se trouve que lorsqu'un ordinateur vous est vendu, il doit avoir passé une certification. Alors, c'est avec tous les tampons, consommation d'énergie, ce genre de choses. Il y a des contrôles sur la consommation d'énergie de l'ordinateur allumé, en veille, etc. Et il se trouve que beaucoup d'ordinateurs échouaient au test sous Linux alors qu'ils passaient sous Windows avec le même matériel. Et ils se sont rendus compte que, en fait, il y avait des comportements liés aux interactions entre Linux et le matériel. Il y avait des choix qui étaient faits par Linux qui n'étaient pas forcément les meilleurs et qui faisaient que l'ordinateur ne mettait pas tout suffisamment bien en veille lors d'une mise en veille et du coup consommait plus. Et donc là, les développeurs d'AMD ont identifié et corrigé les problèmes dans le but de permettre normalement d'avoir plus d'ordinateurs vendus sous Linux et aussi d'avoir des ordinateurs qui consomment moins, ce qui ne se refuse pas. Donc là aussi, à suivre, l'année prochaine, dans les deux ans, peut-être qu'on verra un petit peu plus auprès de certains grands fabricants d'ordinateurs vendus directement sous Linux. On peut espérer. On a une autre petite nouvelle rigolote du côté de Microsoft. Alors, c'est vraiment... On n'en parle quasiment pas de ce genre de truc-là, mais c'est juste que là, il y a quelque chose d'assez rigolo. Oui, Microsoft a sorti un nouveau logiciel, Windows AI Studio, un outil de développement lié à l'intelligence artificielle. Génial. On s'en fout. Pourquoi qu'on en parle du coup ? Parce qu'on s'en fout. Eh bien, parce qu'il y a un élément qui est dans la nouvelle qui, moi, me fait beaucoup rire du coup. C'est que ce logiciel-là, c'est un logiciel qui tourne sous Windows, mais pour l'installer, il est nécessaire d'activer WSL, donc Windows Subsystem for Linux, et d'installer donc en gros une Ubuntu version 18.4 ou plus dans votre système Windows. Et une fois que vous avez installé cette Ubuntu, alors vous pouvez utiliser l'outil Microsoft Windows AI Studio. C'est-à-dire que Microsoft sort un outil, c'est tamponné, Microsoft, c'est vraiment un truc qu'eux ont développé. Microsoft sort un outil qui dépend de la présence d'un Linux dans votre Windows. Les temps ont bien changé, et j'avoue, celle-là d'actualité, elle me fait beaucoup sourire, même si on en a déjà parlé, le fait d'avoir un Linux intégré dans Windows, il faut bien comprendre que la logique de Microsoft derrière, c'est de dire vous n'avez pas besoin de désinstaller Windows et de quitter Windows, vous pouvez continuer à utiliser Windows et utiliser un Linux embarqué dans le Windows à côté. Donc, cet argument-là, c'est une chose, mais là, le fait que leur application à eux dépende de Linux, là, j'avoue que ça me surprend et ça m'épatate. Enfin, une dernière nouvelle un petit peu triste, ça se passe aux États-Unis, c'est les sites gouvernementaux pourraient, c'est pas garanti, mais pourraient abandonner le support de Firefox. Parce que Firefox est en train de descendre en termes de part de marché et pourrait passer en dessous d'un seuil fatidique où les sites gouvernementaux n'auront plus l'obligation de tester avec Firefox. Et sachant qu'il ne reste plus que Firefox et WebKit et Blink, donc qui sont un peu similaires en moteur de rendu, ça serait la fin de la diversité des moteurs de navigateurs web. Alors, c'est juste les sites gouvernementaux américains qui abandonneraient, mais ça serait un signal fort que d'autres pourraient suivre, et donc les développeurs d'applications web pourraient dire c'est bon, j'arrête de tester avec Firefox, regardez, même le gouvernement américain ne teste plus. Donc c'est relativement inquiétant. Après, mesurer les parts de marché d'un navigateur web, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus simple, et sachant qu'avec les politiques anti-pistage, notamment celles dans Firefox, certaines de ces mesures sont biaisées. Donc est-ce qu'ils sont vraiment en train de tomber sous les 2% à suivre, sachant que ces 2%, ça inclut aussi tout ce qui est mobile, et le mobile a pris plus de 50% des parts de marché, et sur mobile, sur iPhone, vous n'avez pas la possibilité d'utiliser Firefox réellement, et sur Android, Google est tellement mis en avant de toute façon que c'est normal que ça tienne pas trop. On va s'écouter un deuxième morceau de musique, on va écouter American Dream de Joe Farren, toujours sur Radio Campus 106.6, la radio numérique terrestre et campusville.com. On se retrouve dans quelques minutes pour la dernière partie des actualités. A tout de suite. Thank you.
snow-covered stream. Cancellations on my radio. Your arms so far away. These tires, they spin so slow. I feel my life roll by. I parked in front of this steering wheel, but I'd rather pass it in your eyes. All my worries stand still. I'm riding this American dream and chasing these lullabies I sing through the snow and freezing rain. You are still the only thing. It's me by when I'm riding this American dream. You give me all the sky I need. Always a soft place to fall. And all the beauty of the open road, it doesn't compare at all to those dancing baby blues and the scent of your skin. Tonight I leave the storm behind. See me in your arms again. I'm riding this American dream and chasing these lullabies I sing through the snow and freezing rain. Are still the only thing that gets me by when I'm riding this American dream. Your love will fill me up again when I pull around that bend, find you there. This American dream. This American dream. This American dream. This American dream.
C'était American Dream de Joe Farren, toujours sur Radio Campus 106,6, Radio Numérique Terrestre et Campusville.com. Vous écoutez les Codes et nous, et c'est la dernière partie des actualités. Alors, il y avait quelques petits restes, je vous les ai mis quand même. Donc, tout d'abord, on va parler un petit peu de stupidité artificielle, ou plutôt de stupidité humaine pour le coup. Il y en a un qui n'est pas encore trop dans le game, vous voyez, dans le monde de l'intelligence artificielle, parce qu'il y a tout le monde qui s'affole, il y a du Microsoft, Apple, Facebook, et il y en a un qui est un petit peu en retrait, parce que ils se sont fait prendre de court un petit peu. Il s'agit de Google, et donc là, Google, très récemment, a fait des démos de Gemini. Alors Gemini, leur nouveau système d'intelligence artificielle, machin, tout ça, voilà. Le pataquès habituel, je vous rappelle, une intelligence artificielle aujourd'hui, ce n'est pas de l'intelligence, l'intelligence est dans celui qui en prête à l'intelligence artificielle. Mais bon, passons, hein, c'est juste des algorithmes qui se basent sur des principes d'auto-apprentissage, ce n'est pas ça la définition même d'intelligence, mais bon. Toujours est-il que pour faire la promotion de Gemini, ils ont fait des vidéos, des trucs pour montrer que ça allait être trop bien, etc. Mais il y a un couac, il y a un petit couac, c'est que la meilleure démo de Gemini qu'ils avaient faite, la meilleure vidéo de démo, était fausse. Voilà. C'était faux, en fait. C'était un montage. Donc, ça donne confiance. Ça donne vachement confiance dans leur solution. Même eux, ils n'ont pas réussi à faire une démo suffisamment bien, donc ils se sont dit, on va faire un peu de montage, on va améliorer. Alors, c'est sur les problématiques d'IA générative de contenu, ce genre de choses aussi. Hein, donc, et au passage, le fait que l'Union européenne veuille réglementer les projets autour d'intelligence artificielle, pour ma part, je trouve que c'est une bonne chose. Je suis complètement opposé à beaucoup de nos chers dirigeants, notamment en France, qui disent « Ah non, faut pas brider l'innovation sur l'intelligence artificielle, enfin. Voyons, c'est trop révolutionnaire, il faut pas qu'on puisse prendre du retard là-dessus. » Le retard, il est déjà pris. On n'a pas le matériel, on n'a pas les logiciels, on n'a rien. On va être obligé d'être en train de suivre les modèles conçus, testés par des grands groupes américains. Je suis pas sûr qu'on ait de l'innovation à rattraper. Et de toute façon, de l'innovation de quoi ? C'est juste un machin ultra énergivore qui concrètement ne va pas apporter grand chose. Mais bon, taper sur l'intelligence artificielle, ça se fait pas trop dans les cercles dirigeants aujourd'hui. À propos de taper, jolie transition, à propos de taper, Google, non, perdu, cette fois-ci c'est Apple qui pourrait se faire taper. Ils ont un petit problème, c'est que il se trouve qu'en Europe, ils pourraient se prendre une petite amende pour abus de position dominante. Alors, c'est la petite amende, c'est seulement 10% de leur vente annuelle. Alors, ça va pas forcément atteindre ce niveau-là, mais c'est quand même de la belle amende. Hein. Il y a un certain nombre de chiffres avant la virgule. Et donc, tout simplement sur le fait qu'ils empêchent les services de musique, notamment Spotify, ils empêchent à Spotify de permettre à leurs utilisateurs de payer leur abonnement sans passer par l'App Store. Et donc, Apple prend sa dîme à chaque fois que vous payez votre abonnement Spotify sur un iPhone. Et sa dîme, attention, c'est pas 1 ou 2%, hein, on est plutôt sur du 30% de mémoire. Grosse dîme, très très grosse dîme. Le tout pour rien. Hein, Apple, ils font juste passe-plat. Hein. Aucune transaction bancaire n'est à 30% de frais, c'est délirant. Et donc, en Europe, on est en train de dire, là, non. C'est de l'abus de position dominante, donc vous pourriez avoir une petite sanction dans la tronche et devoir changer de méthode pour permettre aux applications de choisir comment elles collectent leurs sous, tout simplement. Et enfin, dernière actualité, alors, c'est pas vraiment un logiciel libre, je tenais à en parler, parce que c'est assez important, ces souvenirs d'une autre époque, on va dire. Ce mois-ci, ça a été les 40 ans d'un logiciel qui est pas libre, encore une fois, je le dis, mais qui, à l'époque, avait vraiment marqué, qui a marqué son époque quand il est sorti. Il s'agit de Turbo Pascal, qui est un outil de développement qui est sorti donc dans les années 80, il y a 40 ans, forcément, en 83, et donc qui était sorti pour seulement 49,95 $. Et donc, qu'est-ce que c'était ? En fait, c'était un environnement de développement, alors qui était stocké sur disquette, et qui permettait de créer des programmes en Pascal. Alors, à l'époque, des programmes pour DOS, puis plus tard, les exécutables étaient aussi compatibles du coup avec Windows, mais ça a surtout été remplacé pour le développement d'applications graphiques par Delphi à la fin des années 80, début 90. Mais là où ce programme a été hyper important, c'est que ça a créé une génération entière de développeurs, parce que à 49 $, c'était pas cher, c'était accessible pour quiconque avait déjà investi pour l'achat d'un ordinateur, plutôt que d'avoir à redépenser des centaines et des centaines de dollars pour les outils de développement. Pour une somme assez faible, vous aviez accès aux outils de développement, et ça a créé en fait le milieu du logiciel pas libre, mais des milieux du logiciel du petit utilitaire gratuit ou du petit utilitaire à quelques dollars, quelques euros, quelques francs à l'époque. Et ça permettait à des tas de développeurs de se dire, ouais, mais là, au lieu de faire un programme avec l'outil basique intégré dans DOS ou quoi que ce soit, et là, je le fais avec Turbo Pascal et j'ai un exécutable, j'ai fait un vrai programme. Et aujourd'hui, toutes ces problématiques-là, ça a disparu, parce que voilà, aujourd'hui, le développement, c'est, je fais une application web. Il n'y a plus il n'y a plus le fait de... Je vois encore des gens, d'ailleurs. C'est vrai que je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, des gens dire « Ah ouais, j'ai fait un point exé comme ça. » Mais mec, enfin, faire un exécutable, enfin, c'est la base. Enfin, je veux dire, ça fait 40 ans que ça coûte pas cher. Moi, ça fait plus de 20 ans que j'en fais. Et ça me semble normal. Donc, cet aspect-là a disparu. Et honnêtement, c'est un côté bricoleur qui était hyper intéressant. Alors, aujourd'hui, Turbo Pascal, donc, n'existe plus, il n'y a plus d'intérêt. Si vous vous intéressez à ce langage de programmation-là, il y a Free Pascal qui fonctionne très bien et qui a des tas d'outils de développement très intéressants. En tout cas, pour beaucoup d'étudiants, c'est aussi des excellents souvenirs. Alors moi, mon école, malheureusement, ils avaient fait la transition, ils avaient arrêté le Pascal 1 ou 2 ans avant que j'y arrive. Mais ça a été vraiment l'outil de plus d'une génération de développeurs. Et ça méritait qu'on en parle un petit peu dans cette émission, même si c'est du pas libre. Alors... Vu l'heure, déjà 46, on va tout de suite enchaîner sur la dégeekalisation, comme ça je couperai à la fin avec un petit morceau de musique pour se quitter tranquillou. Petite dégeekalisation aujourd'hui, on va parler un petit peu de complexité et la complexité qui a été apportée par la simplicité, ou en tout cas par la simplicité apparente. Donc je vais vous parler de 2-3 problèmes, notamment d'une faille de sécurité qui est sortie récemment. Et qui est que je trouve assez fantastique. Déjà, on va parler un petit peu de complexité. On va commencer par juste une petite anecdote personnelle. J'ai cassé l'adaptateur secteur de mon PC portable. Voilà, la prise, elle a pris un coup à un moment. Et du coup, la prise, il y avait un faux contact. J'ai dû prendre un autre adaptateur secteur. C'est de l'USB-C. Très pratique, hein. Donc avec l'ancien chargeur, je chargeais mon téléphone sans aucune difficulté. Mon téléphone, j'avais plus à me trimballer un chargeur, je pouvais charger mon téléphone, mon appareil photo, mon ordinateur portable avec le même chargeur, c'était génial. Nouveau chargeur, donc voilà, ça marche très bien pour l'ordinateur, je branche mon téléphone dessus, et là ça marche pas. Je passe à un collègue qui branche son téléphone, et lui ça marche. Et bien, il se trouve que l'USB-C... Et les nouvelles normes de charge rapide d'USB sont devenues tellement compliquées que vous pouvez avoir des bugs d'implémentation. Et bien là, en l'occurrence, mon téléphone, a priori, a un bug d'implémentation. Et le bug, je sais même pas, il est peut-être matériel, qui sait. Et donc, la communication, il y en a un qui va pas assez vite pour l'autre, ou quelque chose comme ça. Et donc, ça marche pas du tout. Mais c'est même pas charge dégradée, non, ça charge que dalle. Et... Pour simplifier, on a dit on va faire un seul format unique, on va faire des prises uniques, on va faire alors l'USB-C, on va faire une norme avec... On pourra tout mettre sur un seul câble, ça va être fantastique. Et du coup, pour faire quelque chose de simple en apparence, parce que pour ma part, je comprends toujours pas quelle était la difficulté à dire pour brancher un écran, on a la prise HDMI. Pour brancher un périphérique, on a port USB. Mais non, on a fait une prise pour tout rassembler. Il faut vraiment tout mettre dans une seule prise. Ça, cet argument-là, je ne le comprends pas d'un point de vue simplicité. Et en tout cas, c'est vendu comme étant une simplification, mais au final, c'est au prix d'une telle complexité technique que on se retrouve avec un bug, un dysfonctionnement de matériel qui n'aurait eu aucun sens à une époque. Donc, déjà, c'est un petit peu gênant. Et là, il y a eu une faille de sécurité qui a été annoncée il y a 10 jours, alors qui concerne à peu près tous les PC modernes, mais vraiment, à peu près tout le monde, et qui est assez méchante comme faille, mine de rien. Et donc, pour la comprendre, il va falloir un petit peu reparler du démarrage de votre ordinateur. Prenons un ordinateur portable, PC fixe, peu importe, vous l'allumez. Le logo du fabricant apparaît à l'écran, puis en arrière-plan, le système d'exploitation, Windows, Linux, BSD ou autre, se charge. L'étape avant le chargement du système d'exploitation, le firmware, c'est l'UEFI aujourd'hui. Et cette étape-là est cruciale d'un point de vue sécurité. Si cette étape-là est trouée, si un assaillant réussit à lui faire exécuter autre chose, vous ne pouvez pas savoir quel est l'état d'intégrité de votre système d'exploitation. C'est le problème des chaînes de confiance. Il faut que vous ayez confiance, vous êtes obligé de faire confiance dans le premier élément qui va valider le deuxième, qui va valider le troisième, qui va valider le quatrième, etc. C'est une chaîne de confiance. Et le premier élément, il est tamponné par le fabricant, il est scellé dans le matériel, vous ne pouvez pas y toucher normalement, sauf faille ultra méga critique comme on en a eu il y a quelques temps. Oui, ça arrive. Et donc, voilà, la chaîne de confiance, elle est là. Mais il faut que les premières briques n'aient pas de bug majeur non plus. Faut pas déconner. Et là, il se trouve que on a eu un gros bug qui a été trouvé. Je vais revenir, je vais rembobiner, sur la séquence de démarrage de votre ordinateur. Quand vous appuyez sur le bouton, le logo du fabricant apparaît. Voilà. La faille, elle est là. Et c'est effectivement un gros problème. J'avais déjà ça en tête. Je m'étais dit, enfin, j'ai pas le temps, j'ai pas les compétences pour fouiller une faille là-dessus. Mais je m'étais déjà dit que, quand même, il y avait des trucs qui pouvaient peut-être être rigolos à faire sur ça. Et donc, des chercheurs ont trouvé, effectivement, il y a des trucs très rigolos à faire autour de ça. Lorsque vous allumiez votre ordinateur, il y a 20 ans, 30 ans, pour ceux qui se souviennent, vous étiez accueilli par un bip. Et vous avez du texte qui défile à l'écran avec processeur détecté, mémoire vive détectée, les périphériques, etc. Tout ça, ce texte-là, maintenant, est-ce que ce texte-là, à l'époque, c'était compliqué ? Ben, si vous vouliez le comprendre, oui. Mais pour l'utilisation de l'ordinateur, on s'en fout, vous en foutiez. Ce texte-là était utile pour du dépannage, en cas de changement dans le matériel. Mais au quotidien, ça n'avait pas d'importance. Ça n'avait pas d'intérêt. Toujours est-il que on a voulu simplifier. Non, mais il faut simplifier. Il faut pas qu'on montre du texte. Il faut pas qu'on montre la réalité technique. Il faut qu'on masque. Et on va mettre à la place... On va être narcissique, on va mettre notre tronche, on va mettre notre logo. Déjà, la logique là-dessus m'agace un peu. Mais on tombe sur un autre problème. Très très rigolo celui-là. Est-ce que vous avez... Il faut se rendre compte... Afficher une image, c'est pas si simple. Mais c'est pas non plus la fin du monde, pousser des pixels à l'écran. Mais afficher une image, c'est pas simple parce qu'il faut avoir l'image. Et là, on tombe sur un gros problème. L'image peut être stockée à différents formats. Il y a le format BMP, PNG, JPEG, GIF et autres. Alors, le BMP est relativement simple. Je veux dire, vous pouvez, en lisant la documentation, vous pouvez comprendre la logique, ça se code assez bien, et vous devriez pouvoir le coder sans bug. Pour de vrai. Format JPEG, ou PNG ou autre, c'est déjà des formats beaucoup plus complexes. C'est des formats qui vont être en partie compressés, avec différents algorithmes. Alors le JPEG, il y a tout un format, l'algorithme d'encodage est assez complexe, le décodage n'est pas non plus le plus simple du monde à coder. PNG, pareil, il y a toute une partie compression avec des bibliothèques standardisées, mais c'est pas simple. Qui dit pas simple ? Dit erreur. Et des humains ont fait des erreurs lorsqu'ils ont implémenté le décodage d'images pour afficher leur logo au démarrage de votre PC. Il y a eu des erreurs de programmation, des vraies erreurs. Et du coup, il se trouve que si un attaquant dépose sur votre ordinateur un autre logo, pouf, voilà, il a réussi à infecter le composant de base du démarrage de votre système et à le détourner. Alors cette attaque, elle n'est pas non plus, c'est pas débrancher vos ordinateurs, c'est la fin du monde. Attention. On parle d'une attaque assez sérieuse, mais du coup, une attaque sérieuse comme ça, c'est la dernière étape de l'attaque, et celle-là, par contre, c'est là où elle est très très violente. Parce qu'une attaque comme ça, c'est pas juste je vais sur un site web et d'un coup, voilà, mon site mon ordinateur a été infecté. Donc là, on parle d'une attaque progressive. Mais là où cette attaque est très violente, c'est que vous pouvez ne pas la voir. Parce que le logo a été altéré, oui, sauf que le logo a été altéré, mais juste un instant après, le logo correct peut être affiché et vous n'avez pas le temps de voir que votre ordinateur n'est plus sous le contrôle du fabricant ni de vous. Parce que là, clairement, le démarrage des ordinateurs comme ça, c'est sous le contrôle du fabricant. Et ça permet de créer en fait une attaque qui soit persistante. Et c'est là où c'est dangereux. Imaginons votre ordinateur, quel que soit le système d'exploitation, se fait attaquer. Voilà l'attaquant, il y a des tas de scénarios possibles, plus ou moins alambiqués. C'est quand même pas le plus courant, hein. Honnêtement. Un attaquant qui récupère votre ordinateur, il va vouloir vous piquer vos données, les chiffrer pour vous faire du racket ou revendre vos données. Clairement, ce type de scénario-là, on parle plutôt de ce qui pourrait cibler des militants. Vous savez, les gens qui disent attention, il faut protéger la planète, ceci, cela, là. Hein, les terroristes d'extrême vert, attention, la police est contre vous. Et ce genre de solution pourrait très bien être utilisé par des forces de l'ordre. Enfin, c'est des opérations barbouzes, mais ça se fait. Donc, faites gaffe. Et du coup, bah, cette attaque-là, là où elle est vraiment dangereuse, c'est que votre système a été infecté, vous vous en êtes rendu compte. Vous décidez de tout formater, même vous retirez le disque dur, vous mettez un nouveau disque dur. Et ben ça marche pas. C'est la puce même sur la carte mère devrait être effacée et remplacée par une nouvelle version. Et personne ne le fait, honnêtement. Hein, la puce, il faut aller la dessouder, je crois. Quoique non, il faut avoir le matériel pour se brancher dessus directement. Enfin, c'est un travail de malade. Pour ma part, j'ai jamais fait ça parce que juste. C'est beaucoup trop chiant, il faut du matériel spécialisé que je n'ai pas. C'est un travail de dingue de corriger derrière ça. Et même en ayant fait ça, c'est très très difficile de revoir confiance. Et tout ça, tout ce pataquès de sécurité qui s'effondre, alors la sécurité est nécessaire, surtout dans certains cadres sensibles, que ce soit si on parle de machines de journalistes, des gens, d'hommes politiques, de militants, la sécurité est importante. Et du coup, ben là, le fait que la sécurité puisse s'effondrer comme ça, la sécurité s'effondre, mais attention, elle s'effondre uniquement parce qu'on s'est dit c'est trop compliqué d'avoir du texte qui défile à l'écran. On va simplifier. On veut simplifier. On va afficher notre tronche. On va afficher notre logo à l'écran de votre ordinateur quand vous l'allumez. Juste pour ça, on se retrouve du coup aujourd'hui avec une faille de sécurité. Juste pour une fausse simplification. Est-ce que c'était compliqué d'avoir le texte qui défile au démarrage de l'ordinateur? Non, parce que votre ordinateur, il faisait sa tambouille, voilà. On le laisse faire. Et puis, ça a planté, ça s'est arrêté à telle ligne. Oui, voilà. C'était simple. Alors qu'aujourd'hui, ça a planté. Ouais, il y a tel logo qui apparaît à l'écran. Ok. Me dire oui, ça plante plus. Non, c'est pas vrai. Le matériel peut continuer de planter. Les défaillances de matériel continuent d'exister. Pour ma part, il y a quelques semaines, j'ai eu un petit problème en rajoutant une barrette de RAM à mon PC. Je sais pas pourquoi. Il a refusé de démarrer après. Je me suis retrouvé comme un con avec un logo. Voilà. Merci. Au revoir. Très pratique. Très, très, très pratique. C'est tellement plus simple aujourd'hui. Et donc, une faille de sécurité majeure qui concerne. Alors, c'est pas un seul fabricant de cartes mères ou d'ordinateurs, hein, ça concerne vraiment un nombre colossal de gens. C'est vraiment monstrueux. Et donc, le code, ça, les formats d'images qui en sont concernés, c'est à la fois PNG et même bitmap, BMP, parce que, juste, absence complète de validation. C'est le BABA en sécurité informatique et ça n'a pas été respecté. Voilà. C'est donc alors certaines machines ne sont pas impactées directement. Alors a priori Dell n'est pas impacté parce que leurs logos ne sont pas remplaçables. Ils ont protégé leur logo. Voilà. Ils ont été suffisamment narcissiques pour se protéger, c'est bien. Mais la plupart des fabricants de PC sont concernés. Apple n'est pas concerné parce que leur logo n'est pas changeable. Voilà. Pareil que Dell. Donc il n'y aura pas vraiment de suite sur cette faille-là, malheureusement. Voilà, la faille est sortie. Peut-être qu'il y aura des corrections pour certaines machines, mais probablement pas, parce que les machines, une fois vendues, on s'en fout. Voilà. C'est la fin de cette déguisation. Je vous remercie de m'avoir écouté, parce que bon, tout seul, je vous avoue, j'espère que pour vous, c'était pas trop dur de m'écouter baratiner tout seul, sans personne pour me donner la réplique. On se retrouvera, du coup, pas dans 2 semaines, parce que dans 2 semaines... si je ne m'abuse, c'est bien dans 2 semaines, oui. C'est l'émission spéciale sur Radio Campus, sur l'émission de la Nouvelle An. Donc, si vous décidez d'aller écouter tout le cirque de tous les animateurs de Radio Campus, vous aurez le plaisir de m'entendre à un moment sûrement dire des conneries. Je ne sais pas encore combien de temps j'aurai, ni ce que je pourrai dire. Et du coup, nous, on se retrouvera, non pas dans 2 semaines, mais dans 1 mois. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fête de fin d'année, un joyeux Noël, joyeux réveillon, et vous avez rendez-vous tout de suite avec Chupa Pimento. Bye bye.
Le libre n'est pas une jungle contre le logiciel privateur.